Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Bruxelles passe à l'acte et monte les droits de douane jusqu'à 48% sur les voitures 100% électriques produites en Chine. Pas que les voitures chinoises, les voitures produites en Chine. Tesla, par exemple, est concernée, qui sont apportées en Europe. Ça entre en vigueur dans une version provisoire, le temps d'être validée par l'ensemble des États le 4 juillet. D'ici le 4 juillet, on imagine que les négociations vont aller bon train entre l'Europe et la Chine. La Banque de France a publié toute une série d'éléments macro, on va les décrypter, et également une enquête auprès des entreprises pour savoir quelle était leur politique tarifaire. Est-ce qu'elles ont tendance à tirer les prix à la hausse ou tirer les prix à la baisse? Les retraites deviennent un marqueur réel de la campagne des législatives qui commence à peine. Alors il y en a qui sentent, enfin qui considèrent qu'on peut raisonnablement promettre aux gens qu'on va reculer l'âge de départ à la retraite. Jean-Luc Mélenchon l'a fait hier en disant que s'il arrive, eh ben, dès le lendemain, les décrets de la réforme actuelle vont au panier et que tout le monde part à la retraite à 62 ans. Et puis Jordan Bardella est très sérieusement gêné aux entournures sur ce sujet. Évidemment, quand on risque de devoir passer des mots aux actes, il y a un moment c'est compliqué. Et donc il a tendance un peu à rétro-pédaler, notamment sur le fait qu'il abrogerait d'emblée la précédente réforme des retraites s'il était aux manettes. On réagira peut-être un peu au programme économique du Rassemblement National après que le MEDEF, à sans surprise, était plutôt hostile. Et puis Emmanuel Macron a changé de discours sur les impôts. C'est plus vraiment un tabou, hein. Il faut des alliés, il faut faire un contrat de gouvernement avec d'autres partenaires. Alors si ces partenaires veulent discuter du levier fiscal, dit-il, pourquoi pas. Puis on parlera de la Fed aussi, qui n'a pas bougé ses taux d'intérêt hier. C'est Christian Deboissieu qui m'a souligné le fait que je n'avais pas mis ce sujet dans le programme, alors je viens de le rajouter. Bonjour Agnès Benassi-Kéré.
Bonjour Nicolas Dose.
Sous-gouverneur de la Banque de France, également professeur à l'école d'économie de Paris et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Christian Deboissieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Et vous êtes là donc au titre du Cercle des économistes qui est partenaire de cette émission. Vous allez publier Réussir la transition. Vous allez publier, oui. Réussir la transition énergétique et écologique. C'est un livre de contribution, c'est ça ?
Un livre collectif qui aborde différentes facettes du sujet, de la transition, y compris. J'ai écrit, moi, le chapitre sur comment financer tout ça, ce qui est facile à poser comme question et difficile à répondre.
Oui, ça rappelle le rapport Pisani. Cette histoire.
Oui, aussi. La perspective, elle n'est pas franco-française, elle est mondiale aussi. Ah oui. Et européenne.
Et donc, vous pensez que la Banque Centrale Européenne aura un rôle à jouer ?
Aussi, mais je veux dire, peut-être pas principal, on va voir.
On dit un mot des rencontres d'Aix, dans la mesure où le calendrier politique chamboule un peu la donne. Deuxième tour, vous le savez, ce sera le 7 juillet. Bonjour Christian Poyot.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole. Faites quoi avec vos prix, vous ? Vous les montez ou vous les baissez, vos prix ?
Vous savez, les prix, c'est un exercice toujours complexe, hein. Ça dépend alors nous, c'est les salaires des gens qui sont le point de départ. Et après, la valeur ajoutée qu'on amène aux clients, comment on se différencie par rapport à nos concurrents. On est plutôt à continuer à monter nos prix, oui, effectivement.
D'accord.
Encore une fois, parce qu'on se différencie et qu'on amène une valeur supplémentaire par rapport à nos clients. Mais c'est un sujet très complexe.
C'était inattendu. Donc, deuxième tour des législatives anticipées le 7 juillet, Christian Deboissieu. Ça vient percuter un peu les rencontres d'Aix qui étaient programmées 5, 6 et 7.
Difficile à prévoir, hein.
Difficile à anticiper. Déjà la dissolution et la date du scrutin.
Oui. Donc, nous commençons à Aix le jeudi soir, qui est le 4 juillet, au soir. Et nous concentrons les débats sur le vendredi 5 et le samedi 6 pour terminer le samedi 6 au soir. Voilà, donc il faut resserrer un peu le dispositif. Par définition, on ne pourra plus accueillir des ministres du gouvernement français actuel. La règle du jeu. Il n'y a pas que le calendrier,
il y a aussi le casting.
Il y a aussi le contenu, si je peux dire.
Ouais,
bon, mais voilà, donc pour le reste, le thème est encore plus d'actualité c'est relier les mondes dans tous les sens de l'expression.
Ah oui. Voilà. Bon, nous, BFM Business sera là. J'animerai cette émission depuis Aix le vendredi 5. Et c'est le samedi où j'ai le plaisir d'animer une controverse. Ce sera sur l'État doit-il changer ? Avec Augustin de Romanet face à Nicolas Dufour. Ça va être sympa, ça. Bon, c'est la question de la réforme de l'État. Bruxelles monte ses droits de douane. Alors, c'est assez spécial, hein. Il y a eu une vaste enquête qui a été menée sur l'attitude de chaque constructeur produisant en Chine, qu'il soit chinois ou qu'il ne soit pas chinois. Ce qui conduit, le 4 juillet, à avoir des surtaxes différentes qui vont être imposées aux différents constructeurs. Par exemple, le plus surtaxé sera MG, filiale du chinois SAIC, qui occupe aujourd'hui une place importante dans les ventes en Europe des véhicules venus de Chine. On peut dire par exemple Volvo, qui est détenu par Geely, qui a été racheté à Ford, sera surtaxé de 20%. BYD, le célèbre BYD, lui seulement de 17,4% de surtaxe. Ça veut dire 17,4% qui s'ajoute aux 10% de taxes actuelles. Il y a les marques occidentales qui produisent en Chine qui sont concernées. Tesla avec le modèle 3, Dacia Spring ou encore Stellantis, allié au chinois Leap Motor. Et puis d'autres marques en Chine qui auront des surtaxes de 21%, notamment des constructeurs plus petits. Et évidemment... grosse inquiétude de la part des grands constructeurs allemands qui vendent considérablement sur le terrain chinois et qui pensent qu'ils vont être victimes de mesures de rétorsion par Pékin. Je pense à Audi, BMW, Mercedes et Volkswagen. Agnès Benassi-Kiré, comment vous regardez cette étape importante ? On n'a pas fait comme les Américains, on n'a pas envoyé un pavé à 100% comme ça de manière aveugle. Ça a été fait au cordeau et ça nous amène à une situation qui est la situation que je viens de décrire. Haro sur le protectionnisme ou au contraire, Bruxelles tente d'avancer avec habileté. Je ne sais pas comment vous analysez ce phénomène.
Ah oui, tout à fait. Donc, il ne s'agit pas exactement d'un droit de douane, hein. Il s'agit d'un instrument de défense commerciale.
Oui, il va falloir toucher les mots, Agnès. Bon, continuez. On va dire que je coupe les invités. Donc.
La commission donc, a fait une enquête auprès des entreprises concernées. Les entreprises ont livré des informations et c'est sur cette base qu'ont été calibrés les droits, qui sont en fait un point de départ d'une courte négociation qui va avoir lieu avant leur mise en œuvre début juillet. Et les entreprises ont la possibilité de prendre des engagements et de réduire les droits. Maintenant, sur le fond, en fait, l'Union européenne navigue entre trois objectifs. Hein. Un, c'est l'industrie, donc l'objectif de réindustrialisation. Le deuxième objectif, c'est la transition énergétique et donc l'électrification du parc, qui suppose d'avoir accès à des véhicules à un prix abordable. Et le troisième, c'est le pouvoir d'achat en lui-même, puisque le budget transport est une part importante du budget des ménages. D'où une approche un peu prudente, de manière à ménager tout cela, et aussi inciter la Chine, d'une part, à réduire ses prix, ce qui fait qu'on va capturer une partie de la rente qui est en fait financée par le contribuable chinois. Et d'autre part, venir investir en Europe comme l'ont fait il y a trois décennies, les Japonais, où on était un petit peu dans la même situation. Et donc, ce qui contribuait à l'industrialisation et à la transition sur le territoire européen. Donc, voilà, c'est une approche beaucoup plus mesurée. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent un droit de douane important.
x4 d'un coup.
Voilà. Et ce qu'on a vu sur les épisodes précédents, c'est une hausse des prix aux États-Unis et puis un contournement, puisque donc les exportateurs chinois passent par d'autres pays pour atteindre le...
La voiture chinoise vient du Mexique.
Et c'est du 1 pour 1. Hein, la part de la Chine dans les importations américaines a baissé de 4 points de pourcentage et la part d'autres pays a augmenté de 4 points de pourcentage. Enfin, ça, voilà, c'est comme une rivière,
c'est, c'est comme le gaz russe qui vient plus de Russie mais qui vient d'Inde maintenant. C'est à peu près pareil. Enfin, non, mais vous me décrivez ça avec des mots considérant que l'Europe a une vraie stratégie. Parce qu'effectivement, pour... illustrer ce que vous dites, eh bien pour contourner tous ces... Alors, vous ne dites pas droit de douane, vous dites comment déjà
C'est des instruments de défense commerciale. L'Europe, si vous voulez, a complété son dispositif commercial dans ces dernières années et maintenant le mettre en œuvre. C'est pas une surprise. Ça a déjà été fait sur d'autres dossiers, hein, l'aluminium, l'acier, les panneaux solaires. Et donc, c'est. Voilà.
Donc, vous mettez. Enfin bon, je vais continuer avec Christian, mais est-ce qu'on met ou pas ce matin le mot protectionnisme justement, donc BYD va produire en Hongrie, Volvo Geely va produire en Belgique son SUV compact, et BMW pense rapatrier la production de sa Mini électrique de Chine vers la Grande-Bretagne en 2026. Donc, effectivement, là, ça, c'est très concret. Protectionnisme ou pas. Stratégie habile des Européens ou protectionnisme sauvage à l'ancienne, qui, de toute façon, atterrira sur une hausse de prix pour le consommateur, Christian Debossieux.
Tout ça, c'est un mouvement. Si vous voulez, qui a commencé pour moi avec l'IRA américaine, la riposte chinoise, et l'Europe a un peu tardé, je trouve, à riposter d'une certaine façon par rapport à cette montée des mesures de défense. Appelons ça, moi j'ai pas peur des mots, des mesures protectionnistes. Bon, je trouve, comme Agnès, que c'est une approche... On fait du fine-tuning.
Oui, c'est vrai.
C'est une approche assez fine, j'allais dire producteur par producteur. Parenthèse, il se trouve que, pour d'autres raisons, j'étais à Shanghai il y a 3 semaines, pour fêter les 80 ans de Bretton Woods, il y avait une conférence monétaire.
On a fêté les 80 ans de Bretton Woods.
En Chine.
Ça m'avait échappé.
Ben, voilà. En Chine, c'est intéressant.
Oui, bien sûr.
Et me baladant évidemment en bagnole dans les rues de Shanghai, j'ai pas vu une voiture française. Alors peut-être Stellantis est là à travers le
moteur,
à travers le chinois, etc. J'ai vu beaucoup d'allemandes. J'ai pas vu une Renault. Je sais pas si Renault a quelque chose là-bas.
Non, c'est bon. C'est l'un des gagnants, Renault. Ça va lui donner du temps.
Alors je voudrais terminer en disant que bon. Je pense que tout ça, c'est un instrument de négociation avec les Chinois et que d'ici le 4 juillet, il se passera des choses. C'est pas fini, c'est pas l'état final. Et deuxième chose, je trouve que dans cette affaire, où est passé l'arbitre ? C'est-à-dire l'OMC. Aux abonnés absents,
oui,
ça fait des années qu'on le dit, même l'organe de règlement des différends, qui est au fond la seule entité de l'OMC qui était un peu effective.
C'était le tribunal.
Les Américains, d'ailleurs, ni Obama, ni Biden n'ont désigné leur juge, c'est complètement bloqué. Donc, moi, on est dans ce monde, j'allais dire, de fragmentation où l'arbitre a quitté le terrain, voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a une place à la négociation dans les différentes réactions venues de Chine hier. C'était pas du... ils sortaient pas le grand jeu. Bah écoutez, puisque c'est comme ça, vous allez avoir vos vins, vos spiritueux, vos produits laitiers et votre viande de porc. Non, ils étaient...
Oui, il y aura de la rétorsion.
Il y aura de la rétorsion, mais bon...
Le cognac.
Xi Jinping avait dit que pour l'instant, on oubliait les menaces contre les producteurs de cognac, justement. Ça avait été l'un des éléments positifs qu'on avait retenu de sa visite en France.
Dans le cas américain, on sait que la rétorsion, ça a été étudié, et en particulier dans des cantons républicains.
Ah oui, d'accord. Christian de Repoyot, ça vous inspire quoi c'est une étape quand même, une étape. On est passé à l'acte, les annonces ont été faites, c'est très précis, c'est très fine-tuning, comme dit Christian de Boissieu. On parlera après du pouvoir d'achat, le dernier élément, Agnès.
Première remarque, il n'y a jamais eu beaucoup de voitures françaises à Shanghai.
Pour
y avoir été depuis des années.
Non, mais je veux dire, le Delta ne va pas nécessairement dans la bonne direction, c'est ça que je veux dire.
Après, le rôle de l'Europe ou de la Commission, c'est de défendre les intérêts des entreprises françaises ou sans charge, des entreprises des Européens. Donc c'est ce fameux level playing field de dire, on joue à concurrence égale pour que chacun, après que le meilleur gagne, entre guillemets, celui qui est le plus performant. Bon. Donc moi, je n'utiliserai pas le mot protectionnisme, que le mot protectionnisme a peut-être une connotation de prise de position sans que ça soit mesuré, structuré, rationnel, entre guillemets. Donc là, c'est quand même une décision rationnelle. Et comme vous le dites, elle a été prise après des enquêtes, des analyses, etc. Elle n'est pas prise de manière globale. Donc ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il fallait prendre cette mesure ? Oui, c'est complètement indispensable.
Ah oui, d'accord. Okay.
Alors, rappelons au passage aussi que ça ne concerne que les véhicules électriques.
100% électriques.
100% électriques.
Hein. Ah, les hybrides et les hybrides.
Les hybrides ne sont pas concernés. Donc bon, il y a quand même encore des sujets. Bon. Donc il est impératif que l'Europe se protège par rapport à ça. Sinon, ça serait encore plus la destruction du tissu industriel européen. Après, le rapport entre l'Europe et la Chine n'est pas le même qu'entre les États-Unis et la Chine. Enfin, on est quand même assez dépendants. Hein. En même temps, la Chine elle a aussi besoin de l'Europe. On raisonne toujours dans le sens où l'Europe, globalement, reste exportatrice. Pas la France, malheureusement. Mais l'Europe reste exportatrice. Et l'Europe est le premier marché pour la Chine d'une manière générale.
Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 450 millions de consommateurs.
Hein. Voilà. Bon, oui, c'est qu'on est en pouvoir d'achat à la première zone mondiale.
Absolument.
Voilà. Bon. Donc c'est un espèce de jeu. Alors c'est pas un jeu parce que c'est pas drôle entre guillemets. Enfin c'est pas là pour s'amuser. Mais c'est que chacun respecte l'autre et surtout fasse valoir son poids et défende ses intérêts d'une manière générale. Donc encore une fois, on ne peut que se réjouir que la Commission européenne prenne ce genre de mesures. Il faut qu'elle continue à le faire. La taxe carbone aux frontières, là, qui commence à s'appliquer, mais qui est que sur les produits de base, il va falloir impérativement le faire aussi sur les produits finis. Voilà. Donc, ça va dans le bon sens. Reconnaissons que là-dessus, l'Europe, depuis 2-3 ans, a quand même fait un virage. Alors, je suis passé à 90 ou à 180, mais enfin, beaucoup évolué. Mais tout ça est logique et il faut pas le faire, encore une fois, dans une logique guerrière, mais on défend nos intérêts de manière claire, forte, en discutant, mais sans ambiguïté.
Ça rejoint ce que disait un peu Eli Cohen à cette même place mardi, en considérant qu'il fallait pas dire que les Européens avaient toujours tout faux sur tous les tableaux. Voilà. Il y avait des choses qui avaient progressé.
L'Europe nous défend.
Et j'ai l'impression, Christian, que ça a été presque plus rapide que d'habitude, quand même.
Oui,
parce
moi,
que là, bon,
si,
les...
juste une
oui,
phrase
allez-y.
Par rapport à ce que dit l'autre Christian. Je veux dire, s'il y avait un tout petit peu de gouvernance mondiale, on n'en serait peut-être pas là. Hein. Donc, pour moi, c'est un second best, tout ça. C'est vraiment... Je veux dire, on est dans un contexte, on en a reparlé l'autre jour à Shanghai, je veux dire, il y a des tas de sujets sur la table aujourd'hui à propos de la gouvernance mondiale. Je veux dire, au-delà, il y a l'affrontement, si vous voulez, Est-Ouest, on est dans le sujet. Et puis il y a l'affrontement Nord-Sud avec le Sud global, l'élargissement des BRICS. On est dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, moi je salue le fait que l'Europe n'est pas naïve. Et je pense que là, elle n'est pas naïve. Mais en même temps, tout ça, c'est aussi la conséquence du fait qu'on peut faire des G7 et des G20, ça débouche sur pas grand-chose.
Mais là, c'est le choc des civilisations. Hein. Je pense que vous avez évidemment lu ce livre. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu une gouvernance mondiale? Il n'y en a jamais eu réellement eu. Il y en a eu une, c'est quand les États-Unis étaient omnipotents et finalement, ils l'imposent. Posait globalement à tout le monde.
Ils le sont encore, d'une certaine façon.
Bah, oui et non, quand même. Après, le Sud global, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas. L'Inde et la Chine, enfin bon, etc.
C'est-à-dire, la dédollarisation, à la fin de la journée, il y a le dollar, excusez-moi.
Oui. Mais bien sûr, le vrai poids des États-Unis, c'est le poids financier, le dollar. Bon, là. Donc, est-ce qu'il le faudrait, cette gouvernance mondiale? Oui, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, elle est réalisable?
Non, mais
donc,
des éléments. Faut faire avec, hein, je ne demande pas une gouvernance, je demande des petits progrès, des éléments de. Améliorer la. C'est pas notre sujet, mais améliorer la représentation de l'Afrique au G20. Voilà ce que je demande.
Oui. Non, mais encore une fois, je vous avais raison, mais
l'Union africaine est rentrée.
On n'y arrivera
pas.
Mais
l'Union africaine, c'est 54 pays. Nous, on est représentés deux fois au G20. La France et l'Union européenne. Je parle des pays africains.
Mais au FMI, maintenant, il y a deux chaises.
Enfin, d'accord, non, mais je parle du G20. Le Nigeria n'est pas au G20. Bon, le Kenya n'est pas au G20.
Il faut continuer à aller dans cet objectif, mais on n'est pas prêt d'y arriver. Bon, donc après, il faut être réaliste et faire avec.
Mais comme dit Christian, déjà, si les Américains nommaient leur collège de juges au sein de l'ORD, de l'OMC, l'organisme de règlement des différences, ça irait mieux. Voilà.
Ils défendent aussi leurs intérêts.
Oui,
ils sont tirés dessus de tous les sens. Et puis la Chine, excusez-moi, là, c'est quand même pas non plus des romantiques. Hein, la Chine.
On est d'accord. Alors, bon, voilà, Agnès, les constructeurs, là, ils vont tenter d'absorber ces taxes dans leurs marges, mais il y a un moment, ils vont monter leurs prix. On sait bien que quand on prend ce genre de mesures, il y a toujours quelqu'un qui paie à la fin, et généralement, c'est le consommateur.
Alors,
vous aviez évoqué le pouvoir d'achat.
Là, c'est un magnifique exemple économique où, en fonction de la marge, eh bien, c'est transmis plus ou moins au prix.
Oui.
Donc, effectivement, quand la marge arrivera à zéro, ce sera toute hausse supplémentaire des droits se transmettra au prix. Mais visiblement, on n'en est pas. Si on voit les réactions des spécialistes du marché automobile qui tentent à dire qu'il y a de la marge, si j'ose dire, pour baisser les prix et ainsi conserver des parts de marché. Donc voilà. Et les constructeurs automobiles chinois voient bien aussi que le marché européen patine. En ce moment, et donc s'ils veulent vendre leur... Donc, ça nous amène à l'autre sujet qui est celui de la désinflation, qui est qu'augmenter les prix en ce moment, ça n'est pas facile.
Il y a un chiffre qui m'a frappé, je l'avais ce chiffre pour la France et même l'Allemagne, le nombre de personnes qui sont employées dans l'ensemble de l'Europe par l'industrie automobile, 14 millions. 14 millions d'Européens bossent dans l'automobile.
Non, mais combien pour les firmes allemandes?
C'est la filière ou c'est direct?
La filière. Alors, c'est non. C'est,
il y a des équipementiers, j'imagine.
Oui, je pense que c'est la filière. C'est quand même colossal. Voilà. C'est quelque chose d'absolument énorme. On va marquer une pause. Je fais juste le lancement. On va parler des retraites. Et puis, évidemment, on va aussi parler de la désinflation. Alors, c'est assez extraordinaire parce que Jean-Luc Mélenchon, hier, il disait avant, c'est 60 ans. Bon, maintenant, c'est 62. Et il indique que s'il arrive, il abroge la réforme précédente et tout le monde part Donc, on va dire, je sais pas, mi-juillet, tout le monde part à la retraite s'il a 62 ans et plus. Jordan Bardella, quand il s'agit maintenant peut-être de devoir passer des mots aux actes, on lui pose la question sur RTL lundi matin, c'est Yves Calvi. Alors, les retraites, monsieur Bardella, il a répondu, on verra. Et il a dit d'ailleurs que l'abrogation de la réforme précédente, qui était quelque chose qui devait intervenir tout de suite, attendra. Jean-Philippe Tanguy, le monsieur économie du RN, a dit l'inverse sur Sud Radio hier. Mais en tout cas, la seule chose un peu nouvelle, c'est qu'ils nous disent du côté du Rassemblement National, bon, on fera un audit financier, et on connaît la suite, tout le monde nous a fait le coup. Ah, écoutez, mesdames et messieurs, les comptes sont bien plus dégradés qu'on ne le pensait. Donc, il va falloir malheureusement renoncer à pas mal de nos engagements. Bref, voilà, c'est la vraie vie, c'est un classique, on en parle dans un instant. Et puis, on ouvrira la page macro avec les derniers éléments de la Banque de France et l'enquête justement sur les mouvements des prix. A tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Benassi-Kéré, sous-gouverneur de la Banque de France, Christian de Boissieu, professeur à Paris à Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Et il va publier un livre de contribution intitulé « Réussir la transition énergétique et écologique » aux collections SK. Christian Poyot, PDG de Micropole. Christian de Boissieu, le coût des retraites, c'est assez extraordinaire. Parce que voilà, on continue à... Alors oui, j'ai dit recul, non. Les promesses sont d'avancer l'âge de départ à la retraite et pas de le reculer. Donc d'aller de 64 à 62, voire 60, pourquoi pas. On sait que 64, ça passe pas. On a des promesses politiques pour aller à 62 ou à 60. On peut se permettre de vendre ça aux gens ? Quand c'est déjà la toute première dépense de l'État.
Dans les campagnes, on vend tout et n'importe quoi, de toute façon.
Ah oui, enfin...
Le sens de l'histoire, c'est quand même de reculer l'âge de la retraite. Je rappelle que nos voisins, y compris des voisins qu'on traite souvent avec condescendance comme l'Espagne, et nos voisins sont à 67 ans, pour la plupart d'entre eux.
65-67 en fonction des pays.
Allemagne 67, Espagne 67, etc. Donc, maintenant, ce qui a été fait, qui est une transition vers, qui n'est pas une retraite définitive des retraites, maintenant 64, je pense que c'est... je ne vois pas comment on peut remettre en cause le retour. Alors, ça a déjà été fait dans l'histoire, parce que il me semble que Mitterrand, dans son premier mandat, avait eu un mouvement un peu similaire.
C'est-à-dire, il arrive, il met la retraite à 60.
Oui, oui.
Elle était à 65.
Mais c'est ce que je dis.
Oui.
C'est ce que je dis. Il avance.
Ah oui, oui, bien sûr. Sérieusement, s'il ne l'avait pas fait, on aurait eu moins de problèmes.
Donc, il y a des exemples dans l'histoire de recul ou d'avancée, en l'occurrence, l'âge de la retraite. Donc, ça existe, mais franchement, ce n'est pas le sens de l'histoire. Et si on veut consolider notre système de répartition, je veux dire, la démographie, là, est quand même assez implacable.
Ah, elle est dure, même.
C'est un des rares domaines dans lequel, en économie, on arrive à faire des prévisions à peu près correctes.
Ouais, absolument.
Je peux se tromper, mais je veux dire, je ne sais pas ce que sera le taux de change dans 3 jours, mais je sais ce que sera la pyramide des âges en France dans 3 ans. Donc, voilà. Donc, si on veut jouer avec ça, moi, ça me paraît dangereux, et je pense que, bien sûr, c'est des magots. Ça aura surtout... Un certain succès auprès des...
Mais voilà, ça rencontre un certain succès. Ouais, le corps nous dit hier que le 2024, on est dans le rouge avec le système à 64 ans. Et ça fonctionne, c'est assez... Ouais. La démographie, c'est vraiment un sujet qui était absent des européennes. J'ai regardé, en 2024, c'est la première fois de son histoire que l'Europe perd des habitants. Ouais. On perd 600 000 Européens actifs tous les ans.
C'est la transition démographique dans laquelle nous avançons tous. Et bon. Je répète, je pense que la démographie, c'est assez implacable comme contexte.
Bon, on dit toujours effectivement qu'on fait campagne en vers et qu'on gouverne en prose. C'est facile de promettre la lune. Après, il faut la décrocher quand on est aux affaires. Et là, on voit que du côté du RN, ça tangue sur l'histoire des retraites. Ils sont plus du tout sûrs de savoir exactement ce qu'ils vont faire.
Ce qui est dommage en France, c'est que toujours l'économie est quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas considéré de manière sérieuse ou réaliste, ou en tout cas on n'a pas de consensus dans les partis pour avoir une vision factuelle de l'économie. Moi, le week-end dernier, avant l'annonce de l'élection, je vais regarder les programmes des 31 ou 35, je ne sais plus, là, candidats à l'Europe, mais vous lisez ça, mais c'est au début, on rit et après, on pleure. Enfin, c'est attristant. La deuxième remarque que je trouve dramatique toujours aussi, c'est quand on entend enfin, une partie des candidats, mais on a l'impression que la France, c'est la Corée du Nord. On est au pire de pays du monde où les gens sont dans des conditions effroyables. Enfin, c'est Zola, quoi. Enfin, je pense qu'une partie des Français sont marqués par ça. Alors, je ne dis pas que tout est parfait sur Terre, et certainement pas en France, mais... Encore une fois, si on se compare à d'autres pays, mais dans quel monde vit-on ? Enfin, on part à la retraite, comme disait Christian de Boissieu, beaucoup plus tôt qu'avant. On travaille beaucoup moins qu'ailleurs. La redistribution est beaucoup plus importante que les autres. Mais ça, c'est pas perçu par les Français, parce qu'ils ont une compréhension de l'économie qui est, somme toute, on peut le dire, malheureusement limitée, mais aussi parce que les partis qu'on pourrait qualifier de raisonnables n'ont aucun discours là-dessus. Et on est tout le temps en train de ressasser qu'on est dans le pire des pays avec des conditions sociales effroyables. Donc, c'est quand même totalement hallucinant. Donc, après, une fois qu'on a dit ça, oui, effectivement, l'économie va être mise de côté, en tout cas durant la campagne. Après, il y a un principe de réalité qui s'applique. Vous parliez de François Mitterrand qui a fait, on va parler que d'économie, mais des trucs, mais d'une connerie.
Enfin, savait en 80 qu'il fallait pas.
C'est le seul mot qui vient. Ça a été fait sans aucune analyse. C'est vraiment
J'ai pas dit que c'était génial.
On en mesure encore les conséquences aujourd'hui. C'est complètement hallucinant.
On se souvient du tournant de la rigueur de 83. Ça n'a pas été long quand même pour partir en vrille.
Enfin, ça fait deux ans où on s'est pris et on continue à subir aujourd'hui. Donc peut-être que là, on voit, et sans porter de connotation politique, ceux qui espèrent peut-être être au pouvoir, peuvent se dire bah oui, mais il va peut-être falloir réfléchir 5 minutes quand même, quoi, si je veux dire, parce qu'on est dans un monde encore plus différent que de celui de 1980. Il n'y avait pas l'euro, c'était beaucoup moins mondialisé, etc. Donc effectivement, si les décisions économiques absurdes qui sont prises dans ce sens-là, on va en payer très rapidement les conséquences, très très rapidement. Mais encore une fois, ne nous leurrons pas, c'est pas ça qui va être au cœur de la campagne et qui va toucher l'esprit des Français, malheureusement. Mais on est là pour le redire, je pense, à cette antenne, voilà. Donc il faut continuer à insister sur ce sujet économique, de réalisme, et encore une fois dans un pays qui vit globalement bien, dans lequel les conditions sociales sont quand même extraordinaires, voilà.
La Banque de France a publié des éléments macro. Agnès Benassi-Kéré, on y parle de prévision de croissance, de prévision de taux de chômage, de prévision d'inflation. Qu'est-ce que vous retenez de la dernière livraison de votre maison?
Alors, nous retenons une économie, somme toute, assez résiliente.
Oui,
une croissance qui, bon an mal an, serait à 0,8 en 2024, qui repartirait plus fortement en 2025, et une désinflation qui se poursuit. Donc ça, c'est un point très important. Et un pouvoir d'achat en hausse. Donc, je rebondis sur la question des relations sociales.
J'avais pas vu le chiffre de pouvoir d'achat.
Plus 1,2%. L'année dernière, plus 0,8 quand même. Alors, par habitant, c'est moins. Ce serait 0,8 cette année pour 0,5 l'année dernière. Et j'en profite pour dire, il y a toujours... Enfin, en général, quand je dis ça, on ne me croit pas.
Oui, mais je... Voilà. Et j'ai l'habitude.
Voilà. Si, nous, on vous
donc... croit. Non, j'ai l'habitude. Quand tu dis que le chômage baisse, que le pouvoir d'achat se maintient... Soit tu mens, soit tu es à la botte de Macron,
un féodé
au grand capital. J'ai droit à tous les coups.
Je précise que la Banque de France est indépendante.
Je crois que l'INSEE fait un bon boulot aussi.
Et les chiffres de 2023 sont donnés par l'INSEE, qui est également indépendant. Donc, en fait, le problème de perception, c'est que le salaire réel, lui, a baissé en 2023 de moins 2,1, voire... moins 2,8 selon
les nouveaux comptes. On est encore en salaire réel négatif en 2023.
En 2023. Donc les gens voient que le pouvoir d'achat de leur salaire a baissé. Mais comme les impôts baissent et que les revenus financiers augmentent quand le taux d'intérêt monte, au total, le pouvoir d'achat quand même augmente. Et donc il y a un problème de perception, sans parler des gens qui ont dû trouver du travail. Et pour eux, évidemment, il y a un saut en termes de pouvoir d'achat.
Quand vous dites ça, ce sont des chiffres macro-globaux et chacun les entend en les regardant sur sa propre situation. Et si ce que vous dites, Agnès, ne correspond pas à la situation de chaque personne qui vous écoute, cette personne considère que vous dites n'importe quoi.
Ils prennent leur salaire hors prime.
Et je le comprends, c'est humain en plus.
Ils prennent leur salaire hors prime et ils ne prennent pas forcément en compte des primes. Vous voyez, il y a tout un ensemble. Et évidemment, au point, il faut le prendre en compte quand on calcule les comptes. Voilà. Donc, cette hausse du pouvoir d'achat que nous attendons, puisque depuis le début de l'année, les salaires augmentent plus vite que les prix,
Ça aussi, on m'a dit que je mentais.
Les prix, ça c'est l'INSEE.
Parce qu'une personne qui a malheureusement dans sa boîte une hausse de salaire qui ne correspond pas au niveau moyen qu'on observe en France considère que ce n'est pas vrai. Bon, parce qu'il n'est pas directement concerné.
Oui, Nicolas, encore une fois, on est là pour redire.
Oui, 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 oui. Non, mais je raconte.
Là, c'est la réalité qu'on entend.
Mais non, mais parce que moi, je veux rester quand même très connecté avec les gens et leurs réactions. Et j'ai jamais insulté les ressentis, j'ai jamais insulté.
Oui, mais le fait d'avoir un ressenti n'empêche pas d'essayer d'amener aux gens à factualiser.
Oui,
le ressenti, c'est humain, mais la vision rationnelle, c'est aussi humain.
Donc, chaque fois, je rappelle que la moyenne, elle n'est la réalité de personne. Toujours. Bon, allez-y, pardon.
Moi aussi, je suis une consommatrice et je vais aussi faire les courses et je vois aussi des prix qui montent. Hein, donc, mais j'essaye justement de rationaliser tout ça. Donc, pour 2024, en moyenne sur l'année, on s'attend à une hausse des prix de 2,5%.
2024, avec, 2,5%.
Donc, sur toute l'inflation, avec des hauts et des bas, parce qu'il y a des effets de bas, je passe le détail. Et à partir de 2025, on passerait en dessous de 2% en France. Hein. Et les salaires, eux, on s'attend à ce qu'ils augmentent en nominal de 3,1%. Donc on est vraiment au-dessus de l'inflation. Et on est bien au-dessus aussi du déflateur du PIB, qui est le prix qui compte pour les entreprises. Je mentionne aussi ça, parce que c'est important en termes de partage de la valeur ajoutée. En 2024, on voit, même avec des hypothèses très prudentes sur le taux d'épargne, qu'on ne fait pas baisser en 2024, on voit quand même une croissance qui, bon an, mal an, est à 0,8%. Un investissement en recul, notamment l'investissement des ménages, mais aussi un investissement qui augmente faiblement pour les entreprises. Et puis, un redémarrage de l'investissement d'abord avec les entreprises en 2025, et puis progressivement l'investissement des ménages.
Ce qui est extra, c'est que vous confirmez que l'économie ne va pas si mal que ça. Et
est-ce que je peux...
Oui, mais bien sûr, vous pouvez, Christian de Boissieu. Mais là, on a une photographie.
Bon, non, mais d'abord, merci à Agnès, et je prends tout ça, moi, pour... très sérieux, hein, la Banque de France fait un énorme travail et crédible. Qu'est-ce que ça m'inspire? Deux choses. La première, et ça, la Banque de France n'en est pas responsable, ni, et a fortiori Agnès, c'est que nous sommes dans un contexte où l'Europe continentale reste une zone de basse pression.
Ça veut dire quoi, une zone de basse pression?
En termes de croissance, rapport aux États-Unis, sans parler évidemment des pays émergents pour lesquels ça n'a pas de sens de faire des comparaisons. Mais je veux dire, c'est un scénario de reprise, mais ce qu'on appelle la croissance potentielle, le fonds de croissance reste bas. C'est tout le débat sur l'évolution des gains de productivité. Ce fonds de croissance reste bas. Donc c'est pas étonnant qu'en phase de reprise, on aille l'année prochaine, en 2025, peut-être vers 1,4, 1,5.
C'est 1,5, je crois.
Le chiffre que vous connaissez.
Pour la croissance.
2025.
Oui, je parle de la croissance.
1,2.
Ah, vous êtes sur un 2
en 2025 et un 6 en 2026.
Non, mais ça
un 6 en 2026.
J'ai regardé les prévisions du FMI d'avril qui ont été publiées lors de. C'est à peu près. C'est la même dynamique.
C'est le même métier à jouer.
C'est la même dynamique. Non, mais, je veux dire, un, c'est mieux. Deux, moi j'ai du mal à satisfaire. Et là, je ne parle pas de la France, je parle de la zone euro. J'ai du mal à satisfaire qu'on reste ce que j'appelle une zone de basse pression. Deuxième chose que ça m'inspire, c'est sur la désinflation, c'est-à-dire le rythme de baisse de l'inflation. Je comprends bien les raisons pour lesquelles ça va mettre peut-être plus de temps que prévu, compte tenu de l'évolution des salaires dans certains secteurs, compte tenu de la hausse du fret maritime.
Fret maritime, c'est impressionnant.
Donc, vous avez une augmentation d'un certain nombre de coûts d'input qui pèsent sur les entreprises et qui font que... moi, ce qui m'avait frappé dans les derniers chiffres, et je me tourne vers Agnès, c'est qu'on prévoyait de retrouver ou de passer en dessous de la cible de la Banque Centrale Européenne de 2% par an. Aujourd'hui, on parle de 2026. Hein. On parle de 2026.
Oui, mais c'est pas...
Non, sur l'inflation, c'est 2025 qu'on passe sous les deux.
En zone euro, on est un peu au-dessus,
oui,
parce qu'en fait, surtout en Allemagne et aux Pays-Bas, on a un marché du travail qui est extrêmement tendu et des négociations salariales qui sont très dynamiques.
C'est l'Allemagne qui a tiré les moyennes d'hausse.
Néanmoins, c'est aussi parce que il y a eu plus de baisses de salaires réels. Ils ont eu plus de temps, si vous voulez. C'est une question de fréquence des négociations salariales.
Et, en Allemagne, et donc, c'est un peu une fréquence tous les deux ans.
Nous, on n'a plus beaucoup à rattraper en termes de salaire réel, de pouvoir d'achat du salaire, alors que l'Allemagne a plus à rattraper. Donc ça fait une dynamique de salaire qui est importante encore en 2024, peut-être un peu 2025, ce qui fait que l'inflation en zone euro a été révisée légèrement à la hausse lors de la dernière prévision de de la BCE.
Mais c'est vrai qu'on a quand même des éléments inflationnistes. Le fret maritime en est un, le prix des services en est un.
Oui, mais c'est pas ça qui fait vraiment... Alors, les services, oui, parce que les services sont très dépendants des salaires.
Voilà.
Et donc, c'est la dynamique salariale qui... donc, ça... Alors, si on rentre dans le détail, hein, on a des prix manufacturiers qui reviennent à un taux d'inflation extrêmement bas. Et l'inflation est nourrie par l'inflation dans les services, où là, on a un rattrapage. C'est plus long à, c'est plus long pour revenir à 2%. Et d'ailleurs, en fait, sur longue période, les services, les prix des services augmentent de plus que 2%. Parce qu'il y a moins de gains de productivité que dans l'industrie. Et donc, voilà.
L'économie, je disais, l'économie va pas si mal, Christian Poyot. Et objectivement, si on regarde les choses de manière assez clinique, c'est la réalité. Alors, c'est d'un peu de la basse pression. Il a raison, Christian Lebossieux. Mais enfin, c'est pas de la récession.
Oui, mais...
Le pic de taux de chômage, je crois que vous l'avez mis à 7,9%. C'est pas rien, mais on...
Alors, la basse pression, c'est dû à la démographie et puis au
oui, bah, la protection sociale. Cette notion de basse pression, effectivement, je suis d'accord, c'est un peu regrettable. Mais en même temps, on ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. On a une basse pression parce qu'en Europe, et spécialement en France, il y a des amortisseurs sociaux énormes. On protège surtout, etc. Et ça, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou dans d'autres zones du monde. Enfin, il faut regarder en France la protection qu'il y a eu sur le prix de l'énergie.
C'est la facture de l'État-providence, selon
vous. Enfin, je ne sais pas, ça me semble quand même relativement évident. Donc, c'est le même discussion en ce moment, les gens disent ouais, oui, je veux un salaire réel plus important, bon, ce qui est une revendication assez classique, on va dire comme ça, mais en même temps, je veux continuer à travailler moins et partir en retraite plus tôt, quoi, et puis garder les 35 heures. Donc, il y a un côté schizophrénique qui est quand même assez impressionnant, quoi. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, est-ce que malheureusement l'Europe n'est pas assez dynamique? Oui, ça, c'est un regret, mais en même temps, il est lié à notre politique générale et surtout en France. Après, sur l'économie, oui, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas. Ok, elle pourrait être plus, elle a été plus dynamique. On espère qu'elle va être plus dynamique, mais est-ce qu'elle est catastrophiste? Non. Je veux dire, il y a quand même toujours des entreprises qui se développent, tirées, c'est vrai, par les grandes entreprises, mais les entreprises tirent derrière tout un tissu d'ETI et de PME. Donc encore une fois, là aussi, on a l'impression de par moment dresser un tableau d'économie française où c'est la catastrophe, etc. Enfin, le chômage continue de reculer.
Non, pas en France.
Non.
Les derniers chiffres ont été quand même où c'est stabilisé, entre guillemets.
Quand je regarde le taux, il y a toujours pareil. Les chiffres de la DARES correspondant à Pôle emploi et les chiffres du taux de chômage indiqué par l'INSEE. Le taux de chômage, il a eu tendance à remonter un peu. Alors, ça ne se dégrade pas trop, là, en ce moment.
Oui, il y en a d'autres qui constatent. Enfin, on n'a pas une réexplosion du taux de chômage. Il a quand même baissé ces dernières années de manière assez significative.
Mais clairement, clairement.
Donc, oui, encore une fois, moi, je ne suis pas en train d'avoir un propos tout va bien, tout est rose, etc. Mais soyons réalistes et factuels. Oui, l'économie française, globalement, fonctionne plutôt pas trop mal avec des poches effectivement beaucoup plus compliquées, mais en vision globale on peut pas dire que c'est la catastrophe.
Christian Lebossieux,
on est bien d'accord, j'ai pas dit la catastrophe. Je pense que le débat au-delà de la croissance à court terme, le débat c'est effectivement quel est le sentier de croissance de nos pays européens sur le moyen terme.
Oui, c'est le sujet.
Et ça rejoint le débat qu'on a ouvert sur l'évolution de la productivité, sur ce qu'on appelle la croissance potentielle, etc. Quand on est dans un pays ou une zone qui a une croissance potentielle, j'allais dire de 1% par an, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas 3% pendant plusieurs années.
Mais même s'il
peut y avoir du rattrapage, il y a eu du rattrapage post-Covid, etc. Donc, le débat, c'est effectivement la politique de l'offre, le débat, c'est la compétitivité, le débat, c'est le lien entre la transition écologique, énergétique et le rythme de la croissance. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'inflation. Tout ça va avoir des conséquences macro. Et moi, on est là-dedans. Je veux dire, alors, la BCE, je salue le geste de la BCE cette semaine.
Du 6 juin.
Du 6 juin de la semaine dernière.
Ouais.
Bon, voilà. Je trouve que la BCE a bien fait de prendre les devants, j'allais dire, par rapport à la Réserve fédérale, alors que souvent, dans le passé, elle arrivait après.
Elle était suiveuse, oui.
On essaye de faire ce qu'on peut faire dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il faut utiliser celle qui est...
La question qui peut se poser après la décision de politique monétaire, c'est de savoir si le fait de précéder effectivement à la Réserve fédérale américaine ne va pas pénaliser l'euro par rapport au dollar, et un euro trop affaibli peut-être élément... tirant l'inflation, notamment sur les prix de l'énergie.
Oui, mais pour l'instant, on va voir ce que va faire la Fed en septembre.
Ouais.
Il est question qu'il y ait une baisse du taux directeur. Les taux directeurs de la Fed sont au-dessus.
Oui, oui, absolument.
Au-dessus
absolument. Et l'inflation est au-dessus, hein,
voilà.
Aux États-Unis, on est à 3,4.
Ce que je pense, dans les semaines qui viennent, Je pense que c'est pas tellement la décision du 6 juin de la BCE qui va peser sur l'euro à court terme, ça a pas vraiment pesé. On va voir si le débat électoral français et les conséquences de l'élection ont un impact plus significatif. On va voir.
Moi, je rajoutais un point.
Oui, Christian Poyot, notion... après on parlera de désinflation, justement.
Ouais, la notion de basse pression, il y a un point qui me semble aussi important, qui sont les normes européennes. Alors, normes au sens très large, d'accord ? Où, encore une fois, ces normes, on comprend l'esprit général qui est dans le bon sens, notamment sur l'environnement, certes, mais qui font peser et sur les entreprises et sur les particuliers, un poids vraiment très important. Et pourquoi je souligne ce point ? Parce que dans... Je pense que nous tous, on discute à droite, à gauche, on rencontre, on écoute la presse, etc. Et le sujet de la pression normative, encore une fois, que ressent l'agriculteur, la TPE, même le particulier, pèse de manière très très importante.
Donc, c'est sûr, voilà. C'est même chiffré.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un impact économique significatif. Moi, pour le voir, Micropole, on est dans la data, donc toutes les normes, c'est de la data. Donc on voit le sujet de très très proche. Donc ça pèse sur les entreprises, mais ça pèse aussi sur l'électeur, je veux dire, sur le particulier au final. Donc là-dessus, il faut que l'Europe, alors l'Europe c'est un mot très large, mais en tout cas la Commission ait une vision beaucoup plus pragmatique que ça. Ça joue, encore une fois, sur l'économie et également sur l'orientation politique des Européens. Et ça peut être très dangereux.
On devait avoir une loi Pacte 2 qui devait tout simplifier, qui promettait une simplification. Ouais. Vous pouvez l'oublier, cette loi Pacte 2. Vous vous êtes intéressé, Agnès Benassi-Kiré, également à la politique tarifaire des entreprises. Et vous avez mené une enquête. Qu'est-ce qu'elle dit ?
Alors c'est une enquête régulière. Hein
mais non, bien sûr.
Donc la dernière livraison qui date de cette semaine, qui concerne mai, le mois de mai, on voit que les entreprises, on interroge les entreprises sur leur politique tarifaire du dernier mois. Et on voit que dans l'industrie, 7% des entreprises déclarent avoir augmenté leur prix au mois de mai. Et 5% déclarent l'avoir baissé.
5% déclarent l'avoir baissé.
Par baissé. Et donc, ces pourcentages nous ramènent bien à... Enfin, avant 2021, il y avait plus d'entreprises chaque mois qui déclaraient avoir augmenté leur prix. Donc, on voit là l'effet au niveau microéconomique. La désinflation, on la voit en route.
On parle d'industrie, sur ces chiffres.
Sur l'industrie.
D'accord.
Sur le bâtiment, c'est encore plus marqué, puisque la proportion qui annonce avoir baissé ses prix est supérieure à la proportion qui annonce avoir augmenté ses prix. Donc là, on a vraiment une baisse de prix. Et puis dans les services, par contre, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que l'inflation dans les services allait mettre plus de temps à revenir à la normale. Et donc ça nous conforte quand même dans l'idée, premièrement, qu'il y a effectivement une désinflation. Deuxièmement, ça montre ce qu'on anticipait. C'est-à-dire que la désinflation, dans un premier temps, ça vient du fait que les prix de l'énergie, du fret, dans une certaine mesure, reviennent vers un niveau normal. Donc on a une désinflation par les coûts. Mais ensuite, eh bien, évidemment, la politique monétaire agit. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour les entreprises de passer les hausses de prix aujourd'hui qu'en 2022 et 2023. C'est plus difficile parce que la demande affaiblit. On est à 0,8 de croissance, alors qu'on était avant à 1,1. Ce n'était pas énorme, mais c'était quand même plus important.
Chiffre revu à la hausse, d'ailleurs, le 1,1 pour 2023.
Oui.
Alors... Au-dessus du chiffre prévu par Bruno Le Maire.
Alors, il y a eu donc un changement entre-temps, donc ce qui n'est pas facile à suivre, mais il y a un changement de base pour les comptes nationaux,
oui,
avec des révisions. Et puis, il y a eu des révisions par ailleurs sur l'année 2023, ce qui est normal. Hein, c'est toujours le cas. Le PIB se stabilise à peu près 2 ans après le premier chiffre.
Christian Desbossiers, oui, là-dessus, et après, on dira un mot d'impôt. Pour
non, mais juste
une émission sans impôt, c'est pas une
derrière
émission.
Derrière tout ça, il y a aussi au fond, le débat sur le comportement de marge des entreprises, finalement, parce qu'on avait dit en 23, et peut-être encore au début de l'année, que les entreprises avaient tendance à vous savez, inflation et marge. Vous
oui,
souvenez ce débat qu'il y avait eu il y a quelques mois. Et là, j'ai le sentiment que, compte tenu de la demande qui n'est pas terrible, compte tenu de la concurrence, alors, tout dépend des structures de marché sur les secteurs, j'imagine, le pouvoir des prix des entreprises sur les prix dépend des conditions de marché qui sont pas les mêmes d'une industrie à l'autre. Je ne sais pas si c'est pris en compte dans... Enfin, c'est compliqué.
Alors, ce débat était un peu monté en épingle parce que aussi on n'a pas vu que la France est assez différente des autres pays de la zone euro. Dans les autres pays de la zone euro, on a vu effectivement une hausse importante des marges qui a contribué à alimenter l'inflation. En France, c'est beaucoup moins le cas. On a eu une hausse, certes, mais après une baisse importante. Et en fait, la France a une force sur longue période, c'est un partage de la valeur ajoutée qui est stable. Et ça, je pense que c'est une encre importante pour l'économie. Et on voit que les marges tendent toujours à revenir un peu vers le même niveau, et la part qui revient en ce travail revient aussi vers le même niveau. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, on a connu une dérive avec une contraction de la part qui revient au travail.
Ce que vous dites, la France est très redistributive, quoi, grosso modo, hein, c'est ça.
Alors, le niveau est relativement stable.
Sur le partage de la valeur ajoutée, voilà. Ça ne se déforme pas comme aux États-Unis, par exemple.
Le taux de marge est 31, vous avez en tête, 31-32%.
De quoi, pardon,
31-32%. Le taux de marge.
Oui, taux de marge.
C'est-à-dire, profit sur valeur ajoutée globale sur PIB, c'est 31-32%, ça ne bouge pas beaucoup, Agnès l'a dit. Et ça veut dire, je ne vais pas vous le démontrer, mais ça veut dire, globalement parlant, que les salaires réels suivent à peu près la productivité du travail.
Oui. En tout cas, ça dément la... Ça démine la crainte d'un effet de second tour prix-salaire, visiblement, vu ce que vous décrivez.
Ça démine certains discours politiques, surtout.
Donc, néanmoins, dans la prévision, on a pris comme hypothèse que les salaires réels allaient rattraper, mais pas aller au-delà. Donc, il n'y a pas d'emballement des salaires, parce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Et on suppose aussi un rattrapage partiel de la productivité. Et ça, c'est une inconnue. C'est que la productivité en France a particulièrement baissé depuis le Covid.
Absolument.
Et le rattrapage semble prendre beaucoup de temps. Donc, nous, on pense toujours qu'il y a une partie qui va être rattrapée. Mais voilà, il y a une petite inconnue de ce côté-là. Évidemment, pour les entreprises, à hausse de salaire donné, s'il y a moins de productivité, ça fait plus de coûts.
Deux infos pour terminer. Une que je vous donne comme ça, Emmanuel Macron probablement va renvoyer la réforme de l'assurance chômage à plus tard. Il semble dire que ce sera plus une loi qu'un décret. Actuellement, il y a un décret qui était attendu pour le 1er juillet, qui est dans les mains du Conseil d'État. Et puis, on va terminer, on a 1 minute 56 avec les impôts. Ah, Christian Poyot, vous êtes prêt à payer plus? Si certains, dans la discussion, veulent ouvrir le levier fiscal, a-t-il dit hier, trois petits points, sous-entendu, eh bien écoutez, moi j'ai besoin d'avoir des partenaires pour faire un contrat de gouvernement. Si parmi ces partenaires, il y en a qui mettent dans la balance des hausses d'impôts, ben on ira. Voilà.
Vous pouvez nous rappeler le classement de la France dans le poids fiscal, enfin la pression fiscale
Ex aequo, quelquefois premier que le Danemark. En prélèvement obligatoire. Hein.
Voilà, vous avez raison.
Prélèvement, ça compte les cotisations sociales.
Qu'on soit encore plus que ça. Quoi. Voilà, la réponse, elle est là. Enfin, la pression fiscale qui existe autant sur les entreprises que sur les particuliers est déjà complètement dingue en France. Et elle ne fait que freiner la croissance, le pouvoir d'achat, enfin tout ce qu'on voudra. Donc quand on entend dire qu'on va réaugmenter la pression fiscale, on marche sur la tête. C'est comme le débat sur les frais de succession. Les frais de succession en France sont les plus élevés d'Europe. Donc il faut remettre les choses sur la table, en perspective.
J'ai pas regardé tous les programmes, Christian. Alors, je vous précise que Gabriel Attal, on vient de me dire qu'il avait confirmé la signature du décret sur la réforme de l'assurance chômage au 1er juillet. Donc, visiblement, c'est... Bon. J'ai regardé un peu le programme du RN. On taxe les super profits, on taxe la fortune financière, par exemple.
On refait l'ISF, c'est ça?
C'est l'ISF, on l'adore.
Pour moi, c'est une déclaration politique plus que des déclarations économiques. Je parle de M. Macron.
Monsieur Macron, oui.
Et deuxièmement, ça veut peut-être dire aussi qu'on va ralentir des baisses d'impôts qui étaient dans le tuyau. C'est tout le débat sur l'évolution des impôts de production du côté des entreprises.
Oui, mais qui reste énorme et qui nous pénalise fortement par rapport à l'Allemagne.
Dans la mesure où le projet de loi de finances 2025 ne sera pas réalisé par les gens actuellement en place, les 2 milliards promis aux classes moyennes, on verra. Et le milliard en moins de CVAE, on verra.
Le sujet majeur, c'est qu'encore une fois, la France, globalement, ne travaille pas assez, autant du fait de son âge de départ à retraite ou du temps de travail global. Et ça, évidemment, personne ne le dit. Mais je pense qu'on est là pour le redire, le réappuyer, avoir du réalisme et pas des fantasmes qui, au final, pénalisent le citoyen au quotidien.
Merci Agnès Benassiquéré, Christian de Boissieu, Christian Poyot. On se retrouve demain à 9h. Vous serez avec Emmanuel Le Chypre Manette.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.